Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Tech & Co, la quotidienne, les invités.
Parler de SVOD, voilà un sujet qui est passionnant parce qu'on est en plein dans la tech, parce que c'est un sujet qui évoque, qui bouge tout le temps. Hein. On en parle de temps en temps dans le débrief de l'actu tech et on va en parler maintenant avec deux experts, deux spécialistes qui sont avec nous sur le plateau. Guillaume Boutin est là. Salut Guillaume.
Salut François.
Ravi de te retrouver Guillaume, cofondateur de Sens Critique. Excellent site qui vous permet d'avoir des notes sur les dernières séries, les derniers films, voilà, avec une grosse communauté passionnée. C'est ça la force de ce site de Sens Critique. Et en face de toi, c'est Pascal Le Chevalier qui est avec nous. Salut Pascal.
Salut François.
Ravi de te retrouver.
Avec
mon cher
plaisir.
Pascal, consultant à WhatsApp Media. Tu as travaillé pendant longtemps chez TF1 Vidéo à l'époque, à la grande époque de la VOD. Enfin, tu connais très bien ce marché. Tu fais des newsletters, des articles aussi sur CNET, je crois. Non, sur ZDNet.
ZDNet. Et puis une petite nouvelle qui s'appelle Stream News.
Stream News en plus, voilà. J'avais envie de vous recevoir pour évoquer un petit peu les derniers soubresauts de l'actualité de la SVOD, parce que ça bouge beaucoup, il y a plein de choses à raconter, et notamment l'arrivée de la pub, qui au début était un sujet un peu tabou, hein, quand on en parlait, il y a un an ou deux, on n'imaginait pas mettre plusieurs euros sur une offre premium y avoir de la pub. Et aujourd'hui, bah, ça passe crème, comme on dit. C'est-à-dire que vous mettez 6 euros d'abonnement et en face, vous avez de la pub chez Netflix, mais aussi chez Disney+. Amazon Prime a annoncé tout ça. Est-ce que c'est un pari gagnant, Pascal ? Est-ce que les services de SVOD ont bien fait de faire ça, à ton avis ?
Alors, on verra dans quelques années si le pari se transforme réellement en un gain financier très important pour eux, mais ils étaient arrivés à un point où le prix de l'abonnement ne cessait d'augmenter. Je rappelle aujourd'hui que Netflix est à presque 20 euros. Et donc forcément
pour l'abonnement premium.
Le deuxième abonnement est à 13,49, donc c'est quand même un peu d'argent. Et donc ils avaient besoin d'une offre qui soit très attractive. Et le seul moyen de l'avoir, c'était de s'engouffrer dans le marché publicitaire. Marché qui aujourd'hui, quand on regarde la part de marché de nos amis de Google, YouTube, Facebook et Amazon faisait qu'il y avait un véritable intérêt pour les gens de la SVOD qui ont énormément d'abonnés de pouvoir coupler les offres basiques avec de la publicité. Paris gagnant, on ne sait pas, mais en tous les cas, tout le monde est en train de basculer sur ce modèle-là et c'est en train de redistribuer les cartes, puisque beaucoup de budgets qui étaient les budgets de la publicité qui allaient vers les chaînes traditionnelles sont en train de basculer sur le streaming parce que le streaming permet de faire de la publicité ciblée.
Bien sûr, de qualité.
On connaît toute l'attitude et tout le comportement des utilisateurs.
Guillaume, tu avais senti en fait cette arrivée de la publicité sur des offres premium comme ça ?
Non, pas du tout. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que cette arrivée, elle s'est pas faite juste comme ça. Bon, il y avait évidemment des relais de croissance qu'il fallait chercher, puisque de toute façon, bah, les gens qui étaient prêts à dépenser 20 euros, entre guillemets, ils avaient fait le tour. Donc de toute façon, il fallait qu'ils adressent un nouveau marché. Et ce qui a été intéressant, alors, notamment avec Netflix, c'est que Netflix, en lançant cette offre, a tenté de commencer à mettre fin au partage des comptes. C'est-à-dire que c'était aussi une réponse à un usage sur lequel ils perdaient de l'argent. Donc, entre des gens qui ne payaient pas du tout parce qu'ils avaient des comptes partagés et des gens qui finalement vont peut-être être prêts à mettre 6 euros, et je crois que les chiffres sont plutôt encourageants là-dessus, bah, ça va dans un sens classique, enfin logique du marché.
Oui, parce que c'est effectivement, il a raison, le partage des comptes est arrivé par là. Tout le monde là aussi s'y met, c'est-à-dire que d'un côté, Netflix qui ouvre la voie un peu avec la publicité et la fin du partage des comptes, Disney a annoncé qu'ils allaient faire de même, et c'est vraiment l'équation gagnante, on va dire, parce que s'ils arrêtent en fait le partage de comptes, ils vont vendre plus d'abonnements à 5 euros ou 6 euros avec de la pub.
Ce qui est déjà le cas aujourd'hui, hein. Je crois qu'ils sont entre 30 et 40% des nouveaux abonnés qui vont sur ces offres à très bas prix avec de la publicité. Alors, tout le monde rigole un peu parce que en fait, ils sont en train de recréer le modèle de la télévision linéaire, c'est-à-dire des contenus avec de la pub, mais en tous les cas, ça rencontre un grand succès. Et puis, surtout, le point pour les streamers par abonnement, c'était de faire très très attention à ceux qui sont derrière, c'est-à-dire toutes les offres d'AVOD. Alors, on les connaît pas bien en France, mais bon, on a Pluto TV, mais aux États-Unis, il y a Xumo, il y a plein de sites qui proposent aussi de la gratuité sur tous les catalogues des grands studios.
Alors la vote, c'est...
avec de la pub.
On explique ce que c'est. En fait, c'est du streaming gratuit.
Streaming gratuit avec de la publicité.
Tu regardes un film, alors en général, c'est des films de seconde zone ou de fond de catalogue, et tu vas avoir de la publicité, mais tu ne payes pas, en fait.
Exactement.
Tu n'as pas besoin d'avoir un abonnement.
Exactement.
Et ça marche, ça ?
Et ça marche, oui. Bah, il suffit de voir aussi ce qui est en train de se passer en France. C'est-à-dire que les grandes chaînes ont complètement fait évoluer leur modèle.
C'est le modèle des grandes chaînes françaises.
Donc on est passé, alors on appelait ça à l'époque la catch-up. Ensuite, on a appelé ça le replay. Et puis aujourd'hui, on appelle ça de la AVOD. Et tous les grands sites, en particulier TF1 et M6, sont en train de se jeter dans la bataille avec un seul objectif, la publicité.
Ouais, on va en parler dans un instant parce que c'est une offre évidemment très intéressante que lance TF1 et d'ailleurs M6 aussi. Hein. Je pense que les dirigeants à la fois de TF1 et M6 auraient bien voulu qu'il y ait une fusion, qu'ils se mettent en place pour n'avoir qu'un service face aux géants américains. Là, ils vont se faire concurrence, hein, mine de rien. C'est ça
d'abord
qui est un peu embêtant. Hein.
Bah, ils sont déjà en concurrence au quotidien.
Oui.
Enfin, ils sont en concurrence frontale. C'était quand même...
Oui, sur le broadcast traditionnel, c'est clair. Mais c'est vrai que on avait évoqué cette fusion, tu sais, entre TF1 et M6, qui tombait à l'eau malheureusement et qui fait que chacun maintenant trace sa route en quelque sorte. Juste un mot, parce que c'est vrai qu'on assiste à une multiplication des services de SVOD. On va pas tous les citer. Il y en a de nouveaux qui vont arriver. On attend Max, là, qui devrait... Enfin, je crois que le directeur général de Max, enfin de Warner France, a annoncé ça pour juin.
Oui.
C'est ça, hein?
Oui, bah, de préférence avant les JO.
Avant les JO.
Parce qu'ils sont l'exclusivité, donc.
Et ça va faire encore un abonnement supplémentaire, oui. Parce oui. qu'en plus, elle est séduisante, hein, l'offre de Max. C'est pas n'importe qui qu'il y a derrière. Hein.
C'est Warner avec HBO, voilà. Plus Discovery, donc du documentaire, de la fiction, de la série,
Eurosport.
Du cinéma, Eurosport.
Donc les JO?
En intégralité. Alors, ce qu'il faut savoir, parce qu'en France, on a parfois du mal à oublier, c'est Max qui va avoir l'intégralité de l'ensemble des JO, puisque les chaînes qui reprennent les JO n'auront pas l'intégralité du signal.
D'accord.
Donc ces 100% des JO seront sur Max.
Et ça veut dire que donc on aura encore à mettre la main dans la poche pour avoir un autre service de SVOD.
Ça dépend si... Imaginons que Max intègre le pack ciné-série de Canal.
Alors j'ai cru comprendre que c'était pas le cas et qu'ils allaient faire cavalier seul, non? Vous avez pas entendu ça? Ils vont intégrer? Vous avez des petites news? Parce que vous êtes bien calé. Hein,
ben j'en vois dans tous les sens. Donc c'est difficile de savoir aujourd'hui.
Enfin, d'accord.
À mon échelle, en tout cas.
Oui, puisque Canal avait fait ça avec Disney+.
Et après, ils peuvent partir avec Prime.
Et Paramount.
Oui, puis ils avaient avant Max, donc, qui appartient à Warner, donc le Pass Warner, dans lequel il y avait les catalogues HBO. Le Pass Warner est distribué jusqu'à maintenant par Prime. Donc c'est un bundle, enfin c'est un coût additionnel. C'est 11 ou 12 euros, je ne sais plus, par mois, pour avoir ce Pass Warner. Si ça se trouve, Prime va continuer à distribuer Max en oui. France, ou alors ça va intégrer le pack ciné-série de Canal, peut-être son surcoût.
Les seules choses dont je suis à peu près sûr, c'est que Warner a annoncé qu'ils allaient arrêter le pass Warner, parce que ça semble logique, chez Prime Video, et qu'ensuite, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que tout le catalogue HBO a été disséminé, en particulier chez les opérateurs de TVOD, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc ça veut aussi dire que Warner a finalement ouvert les portes. Alors est-ce qu'ils vont...
Mais ça, c'est une politique structurelle de Warner depuis quelques années. Ils sont, comment dire, ils aiment tout le monde. Donc à un moment, si un programme chez eux coûte très cher, un exemple tarte à la crème, c'est Friends, par exemple, qui est toujours diffusé sur Netflix. Netflix paye très cher pour avoir Friends. Alors que Warner, à un moment, aurait pu dire « je ferme les droits sur mes... »
Je récupère Friends pour que les gens puissent le voir que sur ma plateforme.
Et aujourd'hui, ils n'ont pas de religion sur le sujet, donc des programmes très forts peuvent se retrouver sur d'autres plateformes.
Ça doit leur coûter très cher, Friends, à Netflix, je pense.
Voilà. Et Warner est content.
Et voilà.
Au final, donc ils n'ont pas ce... Jusqu'à maintenant, en tout cas, ils n'ont pas eu... Et même Canal diffuse aussi des séries HBO. Enfin, ils n'ont pas une religion complètement fermée dessus aujourd'hui.
Il y aura de la pub aussi sur Max, comme Disney et Netflix. On le sait ou pas?
On peut penser qu'il y en aura, et en particulier avec les Jeux Olympiques.
Et oui, bien sûr.
Mais après, HBO, c'est quand même ceux qui ont inventé véritablement la télé payante.
Il y a, oui, c'est un peu le Canal 70, Plus.
Oui, c'est, voilà, Canal Plus, en fait, c'est inspiré du modèle HBO qui avait été créé dans les années 70. Donc, ils ont quand même le payant, c'est dans l'ADN de quand même de HBO. Donc, ce serait un.
Mais les amis, vous qui êtes observateurs de tout ça, on n'assiste pas à une bulle de la SVOD, là? Parce que quand on voit le nombre d'acteurs qu'il y a, l'offre ultra riche que ça représente, je veux dire, au bout d'un moment, il y aura forcément une consolidation de ce marché, non?
Bien sûr.
Il va y avoir des rachats.
Mais elle est en train de se produire. Sauf qu'on n'en voit pas pour l'instant les conséquences immédiates en termes de consommateurs. Mais par exemple, là, dans une heure ou une heure et demie, on va savoir si Paramount, par exemple, est racheté par un autre opérateur. Et donc, ça veut dire que c'est un studio.
Et ça serait quel opérateur qui pourrait racheter
Paramount? Alors, il y a deux offres apparemment sur la table, selon les journaux américains. Il y a Skydance, qui est donc une société de production qui est détenue par le fils de Larry Ellison, donc David Ellison, donc le fils du fondateur d'Oracle.
Oui. Une des plus grosses fortunes du monde.
Qui est une très très grosse fortune. Et puis apparemment Sony, qui se sera allié avec le fonds Apollo pour faire une offre. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple Sony n'a pas de plateforme, en dehors de Crunchyroll, mais n'a pas de plateforme généraliste de SVOD. Et n'en ont jamais eu, ils préfèrent licencier les titres, tout leur catalogue.
Oui, ils vont vendre Spider-Man, par exemple, au plus offrant.
Exactement.
C'est ça.
Et travailler avec tout le monde. Donc, on sait.
Mais c'est pas un Netflix qui pourrait racheter Paramount, ou un Disney Plus, ou je sais pas moi, un Max, par exemple.
Il faut déjà qu'ils digèrent le rachat de Fox.
Oui, parce que je veux dire par là, c'est que ça va pas. Ce sont des acteurs extérieurs, on va dire. Bon, Sony peut-être pas, mais c'est vrai que là, tu parles de Skydance. Ce sera un changement d'actionnariat, mais ça va pas.
Moi, mon pari, c'est qu'on y vient. C'est-à-dire que quand on regarde d'ailleurs la situation économique de toutes les plateformes, en dehors de Netflix, elles perdent beaucoup d'argent. Ce matin, je regardais Peacock, qui est la plateforme de Comcast, NBC Universal, qui n'est présente qu'aux États-Unis. Ils ont 34 millions d'abonnés. Ils ont perdu 2,7 milliards de dollars cette année. Donc, à un moment donné, sur la période depuis le lancement 2021, je crois qu'ils sont à 9 milliards de dollars de pertes. Donc, forcément, à un moment donné, soit certains vont arrêter de jouer en disant c'est fini, la récré, on arrête parce que le cours de bourse s'est effondré et donc il n'y a pas de valeur à aller chercher. Soit il y aura des fusions, des rachats de catalogues. Peut-être que demain Netflix voudra racheter l'offre
l'offre de Universal, par exemple.
Par exemple.
Ouais, pourquoi pas.
Et donc on est au début du mouvement et même en Europe, il va y avoir des mouvements très très rapidement. Mais bon, voilà, tout le monde a essayé. Et puis quand on s'aperçoit qu'on ne peut pas y arriver, à ce moment-là, les gens se rapprochent, fusionnent, se marient. Et puis,
tu parles de l'Europe, mais quels sont les acteurs qui, justement, pourraient être susceptibles de fusionner en Europe? Il y a qui?
On a vu, par exemple, un leader européen en Europe du Nord qui était Viaplay. C'est Canal qui est en train de le reprendre. Voilà, donc c'est ce type de mouvements qui vont exister. Il y a plein de plateformes qui existent aussi dans les pays de l'Est qu'on ne connaît pas bien, mais qui sont susceptibles aussi de basculer et d'être achetées éventuellement par des Américains ou par Canal+, pourquoi pas.
Et puis après, t'as les très gros. Enfin, tu vois, ça fait des années qu'on entend que Apple un jour achèterait Netflix, Disney, etc. Tu peux aussi avoir des concentrations vraiment mouse sur les très très gros acteurs. Mais c'est certain qu'à terme, il y aura moins de gros acteurs, en tout cas. Soit on aura des acteurs de niche qui ont un filon, une audience particulière et qu'on a un modèle économique qui fonctionne bien avec. Sur les acteurs généralistes, oui, c'est certain qu'il y aura des morts ou des mariages.
Ouais, ouais, ça c'est clair. Ça me paraît tellement évident. Tu parlais d'Apple TV, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué l'offre d'Apple TV, qui est très intéressante parce que tout comme Amazon, eux, ils investissent beaucoup dans le sport et dans le direct. Ce qui n'est pas trop le cas de Netflix. Disney non plus, pour l'instant. Mais en tous les cas, Apple investit des milliards.
Disney, ils ont ESPN aux États-Unis.
Disney, ils ont ESPN aux États-Unis, qui est quand même une des principales offres de sport.
Si ce n'est la première.
C'est
la première.
Oui, qui est la première, mais il y a de la concurrence qui commence à s'organiser, en particulier parce que les autres streamers, en l'occurrence Amazon et Apple, sont en train d'acheter des droits. Et Netflix, alors Netflix tourne autour du sport.
Oui.
Ils avaient dit jamais pour la pub.
Hein. Mais ça fait longtemps le sport qu'on en
Alors,
parle.
Alors ils font des choses. Hein. Ils ont fait un tournoi d'exhibition pilote de Formule 1 contre golfeur à Las Vegas au printemps dernier. Ils ont fait au mois de mars la démonstration, enfin le tournoi exhibition entre Alcaraz et Nadal pour un match de tennis. Là, ils vont organiser un match de boxe. Donc on voit que
ils tournent autour du pot.
Ils tournent autour du pot. Ils ont toujours dit.
Il y a le sujet de la F1.
Il y a le sujet de la F1. C'est une opportunité un jour.
Mais c'est rigolo comme
ça. C'est eux qui ont lancé la F1 globalement. Enfin,
oui, bien sûr. Netflix avec la série sur la F1.
Ils ont vraiment relancé la F1. Ouais,
c'est incroyable la puissance quand même. Hein, de... Ils ont fait la même chose avec le tennis aussi, qui est en train de redevenir populaire grâce à une série qui raconte un petit peu les dessous des
grands champions de tennis. C'est pour ça que tu vois demain la diffusion des événements sportifs avec, elle est quand même bon.
Mais c'est intéressant de voir que finalement, tous ces nouveaux acteurs qui ont inventé la SVOD reviennent en fait au direct et à la télévision, à la bonne vieille télé qu'on connaît, quoi.
C'est ça. Excepté l'information.
Excepté l'info.
Excepté l'info. Donc les chaînes d'info, ça va tranquille.
Mais jusqu'à quand ?
Non, je pense.
Est-ce que demain Netflix pourrait dire, tiens. On va créer une chaîne d'info
Non, parce que d'abord, je pense qu'ils ont des cibles d'abonnés qui sont quand même relativement jeunes. Et puis, le traitement de l'info, c'est quand même... faut une rédaction, ce que n'a pas une société comme Netflix.
Et puis surtout, ils le feraient autrement, je pense. Enfin, s'ils le faisaient, ils ne feraient pas une chaîne d'info continue.
Oui, ils trouveraient quelque chose
Je suis sûr que ce serait un autre format ou une autre manière, en tout cas, de transmettre l'information. Tu parlais des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes, ils regardent Hugo Décrypte sur YouTube.
Oui, c'est clair.
Donc, oui, mais ça veut dire que tu vois, tu peux adresser à des moins de 25 ans de l'information quali.
Tout à fait, de qualité, avec une rédaction.
Voilà, c'est ça, sauf que ça rentre dans leur code.
Tiens, tu évoquais YouTube. C'est intéressant de parler de YouTube aussi, parce que depuis tout à l'heure, on évoquait la AVOD, etc. Mais le meilleur exemple de la SVOD gratuite, c'est YouTube finalement.
C'est YouTube. Alors numéro 1 aux États-Unis. Hein.
Et qui cartonne. En fait, cartonne. YouTube enterre tout le monde.
Ils ont la plus forte audience donc des streamers aux États-Unis. Au mois de mars, je crois qu'ils avaient 9,7% de l'audience télé globale sur le téléviseur. Netflix, par exemple, c'est 8,1. Et donc, incroyable. Ils ont un chiffre d'affaires publicitaire considérable. Mais donc, en fait, c'est le modèle.
Ils sont pas rentables, si je dis pas de bêtises. YouTube, ils sont toujours pas rentables. Non, mais tu parlais aussi tout à l'heure de à quel point c'est compliqué. C'est que
bien sûr.
Pour gagner de l'argent dans cet univers, soit t'es Netflix, soit t'es Canal.
Ouais. Enfin, YouTube, c'est Google. Ils ont un peu de cash quand même.
Mais voilà, c'est ça. Mais si tu veux quand même YouTube, qui est à ce point aussi important, à revérifier peut-être depuis l'année dernière, mais en tout cas historiquement, n'ont jamais.
Ils publient pas. On n'a pas le détail. Mais surtout, c'est un capteur de recettes publicitaires monumental. Et d'ailleurs, il suffit de lire les propos du président de TF1 qui a dit mon concurrent. Pour TF1+, c'est YouTube sur la pub.
Et oui, c'est pas Netflix en fait. Enfin, peut-être un peu maintenant avec l'offre, avec publicité.
Un peu, mais le vrai concurrent, puisqu'il se positionne sur le marché de la gratuité, c'est YouTube qui attire un monde fou et pour lesquels les chiffres finalement n'ont jamais baissé. Et plus le streaming se développe, plus YouTube est aussi entraîné dans le mouvement.
Mais de toute façon, un média aujourd'hui, enfin, c'est pas compliqué. Un média, il a trois manières de gagner de l'argent. Voilà, que tu sois Netflix ou BFM ou quoi, soit tu vends la publicité. Soit tu vends ton programme, on achète pour consommer ton programme, soit tu vends la data. En résumé, c'est ça. Donc globalement, aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus de frontières entre YouTube, Netflix, TF1+, demain, etc. Puisque globalement, ce sont des médias qui doivent financer les programmes qu'ils achètent ou qu'ils fabriquent. Et il n'y a que ces trois manières. Et donc je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est sur tous les plans en même temps parce que tu dois adresser chacun des marchés.
Mmh. TF1+, M6+, bonne idée à votre avis ?
Pour moi, c'est le prolongement de l'histoire des chaînes de télévision.
Rappelons ce que c'est, donc immense plateforme pour chacun, totalement gratuite. On oublie les abonnements premium.
Il y a du premium dedans.
Il y a du premium qui enlève la publicité. Pas, ouais,
exactement.
Mais vous avez accès à d'immenses catalogues où vous avez, par exemple, toutes les séries TF1 que vous aimez.
TF1, 30 000 heures, je crois.
Voilà, enfin, c'est monstrueux. M6, pareil, qui dégaine quasiment en même temps, à quelques semaines d'écart. C'est le salut, en fait, aussi. J'imagine qu'aujourd'hui, ça représente peut-être pas énormément dans le chiffre d'affaires de TF1 et d'M6, mais à terme, ça va être
explosé, non ? TF1 a communiqué, ils ont dit en 2023, 90 millions d'euros de chiffre d'affaires publicitaire sur plus de 1,7 milliard pour la chaîne au global. Et l'idée, c'est de tripler ou quadrupler dans les prochaines années. M6 annonce 100 millions d'euros d'investissement.
Il y a une nouvelle, moi je pense qu'il y a été... pour ces chaînes-là, je pense qu'il y a eu un avant, un après, c'était HPI. HPI qui a été l'énorme succès, qui a été l'énorme succès de TF1, mais la première saison était déjà il y a 3 ans ou 4 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et ils ont vu que 20% de la consommation de la série s'était fait en replay sur TF1. 20%.
Ce qui est énorme.
Et c'était il y a 3 ou 4 ans. Mmh. Et je pense qu'il y a eu un précédent avec ça, où à un moment aujourd'hui, tout ce qu'on font, ça rejoint un petit peu ce que je disais d'ailleurs, c'est que les médias aujourd'hui sont sur tous les canaux, sur toutes les formes de monétisation, sur tous les modes de consommation, parce que c'est le digital qui rend ça possible.
C'est terminé. Je voulais juste qu'on dise un petit mot sur Sens Critique. tu proposes depuis peu un nouveau service.
Ouais. Oui, on en parle, tu vois, avec la multiplication des plateformes, la multiplication des offres, on a accès.
Parce que tu parlais de la data, la data, vous la manipulez en fait,
cette data. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, on a accès à des dizaines de milliers de programmes. Et en gros, j'en avais marre que mes potes m'appellent tous les soirs pour savoir quelle série ils devaient regarder. Donc, on a développé.
Tiens, je vais le faire la prochaine fois. J'ai oublié.
On a développé un Explorer où, en gros, on agrège l'offre de toutes les plateformes et ensuite, tu peux la trituer dans tous les sens pour accéder aux meilleurs. Donc si par exemple tu veux les 10 meilleures séries du moment, quelles que soient les plateformes, tu veux te faire un bon policier, tu vas dire choisis la catégorie policier, je suis abonné à Canal, Prime et je sais pas Netflix.
Et on va te sortir
on va te sortir les meilleures sorties depuis 10 ans, etc. T'as que une heure et demie, tu peux dire je veux que les films.
Ah ouais, d'accord, tu peux aller très loin dans le.
Tu combines, c'est une première version qui est sortie il y a un mois, on est très content, on a beaucoup de succès. Mes potes ont arrêté de m'appeler.
Donc t'as plus d'amis.
J'étais très content, on parle d'autre chose, ça je prends pas de boulot.
Sens critique, donc. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Pascal.
Merci,
Pascal Le Chevalier, spécialiste, évidemment, SVOD, consultant à WhatsApp Media, que vous pouvez lire. Ta newsletter, toujours aussi, important. Et Guillaume Boutin, cofondateur, donc, de Sens Critique avec ce nouveau service. Merci beaucoup à tous les deux.
Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservés aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Au quotidien, prenez les transports en commun.